considérer ensemble, nous avons pensé pour ces quatre réunions les consacrer à l'épître aux Éphésiens. Pourquoi l'épître aux Éphésiens? Certes, toute l'écriture nous est donné pour notre instruction, notre consolation, notre correction, comme nous trouvons dans la deuxième épître à Timothée, toute écriture inspirée de Dieu. Il n'en reste pas moins que certaines portions de la parole de Dieu sont davantage en relation avec ce qu'on appelle les économies. Il est certain que dans un avenir proche, lorsque Israël sera de nouveau sur la scène, lorsque cette terre que les croyants auront quittée sera soumise à de terribles jugements et qu'il y aura, il restera sur la terre, il y aura des croyants qui souffriront, ce qu'on appelle le résidu, il est certain qu'il y a des portions de la parole qui les consoleront tout particulièrement. Il y a des pages des prophètes qui peut-être aujourd'hui nous disent peu à nous, ou bien les psaumes, qui seront pour ces croyants-là une consolation toute particulière. Nous sommes dans le temps de l'Église, et pour cette période-ci, ce donc qu'on appelle une économie, l'économie de l'Église, la divine parenthèse dans l'histoire des conseils de Dieu, qui est sur le point de se terminer, tout le montre, et qui dure depuis 2000 ans, pour cette période-là, il y a des portions de l'Écriture qui nous concernent tout particulièrement. Et l'Épître aux Éphésiens est une de ces portions. Il est donc d'une valeur toute particulière de nous occuper de cette portion-là de la parole. C'est une épître particulièrement élevée, puisqu'elle voit le croyant assis dans les lieux célestes. Et cela correspond bien à l'appel de l'Église, qui est aussi, dans les conseils de Dieu, ce qu'il y a de plus élevé par rapport à l'homme. Et nous aimons attirer l'attention de notre chère jeunesse sur la responsabilité qu'il y a à appartenir à cette économie, à cet ensemble de personnes appelées à une telle vocation. Dieu a de nombreuses créatures. Il y a les anges, il y a des hommes, et parmi les hommes, il y en a qui sont appelés à des vocations spéciales. Il y aura des croyants heureux sur la terre. Et puis, il y a les croyants qui ont une vocation céleste. Et parmi les croyants qui ont une vocation céleste, il y en a même de différentes catégories. Nous avons les saints de l'Ancien Testament. Ils ont reçu un appel céleste et nous les rencontrerons au ciel. Un Abraham, un David, un Moïse. Et il y a les saints du Nouveau Testament qui sont appelés à constituer l'Église. Aussi, dans l'histoire des voies de Dieu, nous sommes des privilégiés. Nous ne voyons aucune créature élevée à une dignité aussi haute que l'est l'Église. Et nous avons pensé que cela devait être replacé devant nos cœurs. Aussi demandons-nous ensemble au Seigneur que cette portion-là de la parole de Dieu, souvent jugée difficile, très élevée, nous disons, mais est-ce que nous sommes dans l'état voulu pour nous occuper de cela? Oui, nous devons, nous tenons devant Dieu, et réalisant tout le sérieux d'une telle portion de la parole, nous en occuper ensemble. parce que nous sommes directement concernés par une telle portion de la parole. Elle est particulièrement dense. Il suffit, et nous la lirons, de considérer cette presque première phrase qui va du verset 3 au verset 14, où nous n'avons pas un point, c'est une seule phrase. Pourquoi ? Il nous semble que c'est parce que les conseils de Dieu forment un tout, inséparable, qui ne supporte aucune coupure, que nous avons là un ensemble des pensées de Dieu, un merveilleux ensemble que l'Écriture nous présente en une fois comme d'une seule haleine. Et si considérons cet appel céleste, nous avons eu la pensée, puisque nous avons devant nous quatre réunions, de l'envisager avec quatre de ses conséquences. Et ce sera, si vous voulez bien, notre plan. L'appel céleste, ou l'appel de l'Église, et la louange. Premier point qui va faire l'objet de notre entretien maintenant. L'appel céleste et le service. Nous trouvons des directions très précises quant au service dans cette épître aux Éphésiens. L'appel céleste et la marche. Nous trouvons aussi des précisions quant à la marche dans cette épître. Et enfin, dernière réunion, l'appel céleste et le combat. Nous aurons ainsi, par rapport à la pensée de Dieu, les conséquences pratiques que cela entraîne pour le croyant. Je les rappelle, louange, service, marche, combat. Quatre aspects essentiels de la vie chrétienne qui découlent de ce que Dieu a fait pour nous. Voyez. On nous voudra bien excuser, donc l'aspect peut-être quelquefois un peu scolaire, un peu schématique, mais peut-être plus facile à retenir. Puisque nous sommes devant une épître si dense, il faut essayer d'en dégager des lignes principales et un peu pratiques. Alors, nous commencerons par la lecture des versets 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés, selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Alors nous dirons encore ceci avant d'aborder notre sujet, c'est que cette épître, elle est pour des chrétiens. Elle s'adresse à des croyants. Nous n'avons pas lu le premier verset, mais l'épître est adressée aux saints et fidèles dans le Christ Jésus. Nous avons donc là un enseignement qui s'adresse aux croyants. Si ici quelqu'un n'était pas en règle avec Dieu, s'il n'avait pas accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, il est évident que c'est le point de départ. Ces réunions ne s'adresseraient pas à lui, ou tout au plus pour lui montrer toutes ces richesses que Dieu offre et qui sont à sa portée s'il les saisit. Il y a donc deux catégories de personnes, ceux qui possèdent les richesses offertes dans cette épître, et puis ceux à qui elles sont offertes et qui ne les ont pas encore acceptées par grâce. Et alors nous faisons un appel encore ici au commencement de ces réunions à ceux qui peut-être n'ont pas accepté le salut que le Seigneur leur offre aujourd'hui. C'est le point de départ. Cette épître, elle est adressée à des croyants. Mais alors, elle présente aux croyants toute l'excellence de ses richesses. Alors là, on peut dire, si elle n'est que pour les croyants, elle est pour tous les croyants. Bien sûr, la chrétienté est composée d'une multitude de personnes. Il y a autour de nous des personnes qui s'intitulent chrétiennes, qui n'en sont pas, nous le savons bien. Et cela peut être le cas de jeunes de parents chrétiens. Avant leur conversion, ils portent bien un nom, ils ont une étiquette, mais on est chrétien quand on est né de nouveau. Je pense qu'il est important de rappeler cela. Mais une fois qu'on est chrétien, eh bien, on peut jouir ou ne pas jouir des privilèges qui sont les nôtres. On peut en jouir parce qu'on ne les connaît pas. On peut ne pas en jouir parce qu'on ne les connaît pas, et on peut ne pas en jouir parce qu'on n'est pas dans l'état voulu pour cela. Mais cela ne change rien à la vérité de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'en jouit pas que cela touche en quoi que ce soit à ce que Dieu nous offre. Ce que Dieu nous donne, et dont nous avons ici un résumé magistral, un condensé extraordinaire, ça reste là, c'est à la disposition des croyants. C'est ce que l'apôtre nomme 5 ou 6 fois les immenses richesses de la grâce, de la gloire, richesse insondable de Christ. Le trésor est là, il faut y puiser, il faut en jouir. Nous verrons peut-être cela, surtout en relation avec le combat. Pour le moment, nous voudrions voir ce sujet de la louange de la manière suivante. D'abord, à qui elle est rendue? En second lieu, par qui elle est rendue? Ensuite, pour quel motif elle est rendue? Comment elle est rendue? Et quand elle est rendue? Nous trouverons dans cette épître la réponse à ces questions. Elles seront reprises au fur et à mesure. À qui la louange est rendue? Eh bien, nous avons trouvé dans notre verset 3 que Dieu est désigné de deux manières le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons une relation avec Dieu, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous reportons, n'est-ce pas, au message que le Seigneur a envoyé à ses douze assemblées par la bouche de Marie après sa résurrection. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et on peut dire que toute l'épître est construite sur ces deux noms que Dieu prend, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre position et notre relation. Position devant Dieu et relation avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans une relation. Et on remarque dans cet épître, deux prières de l'apôtre Paul, la première dans le premier chapitre, au verset 17, voyons au verset 16, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, etc., et nous voyons ce que l'apôtre demande pour les Éphésiens. Et puis au chapitre 3, nous avons une prière, alors qui est adressée au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 14. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez donc que les deux titres que Dieu prend par rapport à nous sont annoncés dès le début de cet épître. À qui la louange est rendue? Et dans ce premier paragraphe, nous avons trouvé plusieurs fois le mot louange, n'est-ce pas? La louange de la gloire de sa grâce, verset 6. La louange de sa gloire, verset 12. La louange de sa gloire, verset 14. On voit donc que quand le nom de notre Dieu et Père, est mentionné, alors le cœur s'ouvre en louange. C'est le premier effet. Par qui la louange est rendue? Est-ce que nous voyons ici une distinction entre des croyants d'un niveau élevé, puis d'autres d'un moins spirituel, ou entre des classes de chrétiens? Pas du tout. Sous l'ancienne économie, il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites. Il y avait donc dans le peuple d'Israël des classes bien distinctes, appelées à des services particuliers. Mais il n'en est pas ainsi dans l'Église. Tout croyant est sacrificateur. Apocalypse 1, verset 5, n'est-ce pas? Il nous a fait rois et sacrificateurs. Pas de différence. Et c'est une des iniquités dans la chrétienté, de tout ce qui a été organisé au point de vue religieux, de faire une distinction et des hiérarchies parmi les croyants, comme si certains se plaçaient au-dessus de leurs frères pour être dans une relation privilégiée avec Dieu. Il n'en est rien. Un jeune homme, une jeune fille convertie, ce matin, il est sacrificateur, il est adorateur, il est appelé à louer Dieu. Par qui cette louange est rendue? Nous n'avons pas le temps de lire toute l'épître et c'est bien dommage. Mais le début du chapitre 2 nous montre sous trois aspects les croyants dans ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus, ce que Dieu a fait d'eux. J'indique simplement ces grandes lignes, mais en encourageant chacun à creuser un peu ces sujets. Le premier paragraphe nous présente d'abord l'aspect de morts qui sont rendus vivants. Des gens qui étaient morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, et puis dans lesquels Dieu a fait une œuvre pour leur donner la vie. Le second aspect, nous y reviendrons lorsque nous parlerons, Dieu voulant, du service, à la fin aussi de ce paragraphe. Et essentiellement dans les versets 8 à 10, nous voyons des gens inutiles, des gens incapables, et dont Dieu va se servir, pour qui Dieu va préparer des œuvres. Et puis, à partir du verset 11, nous voyons un troisième caractère. Ce sont des gens qui étaient loin et qui ont été approchés. Nous avons donc des morts rendus vivants, des gens inutiles. Nous pensons à Romains 3, n'est-ce pas ? Ils se sont tous rendus inutiles. Et puis, en qui Dieu va travailler et par qui Dieu veut travailler ? Et puis des gens qui étaient loin et que Dieu a approchés. Ces trois caractères nous permettent de comprendre quelque chose de la grâce. Pourquoi est-ce que nous rappelons ce que nous étions ? Pourtant, nous disons souvent, Dieu a jeté tous nos péchés derrière son dos. Et puis, il ne s'en souviendra plus jamais. Tout cela, c'est du passé. Est-ce qu'il faut y revenir ? Sans doute pas en détail. Nous sommes toujours portés à nous occuper de nous-mêmes. Et quelquefois, nos cultes sont languissants parce qu'on ressasse notre état misérable et puis ce que nous étions. Mais, pour souligner la grâce, l'immense grâce de Dieu, pour la mettre en évidence, il est important de nous souvenir d'où Dieu nous a tirés et ce qu'il a fait de nous. Et cette distance entre ce que nous étions et ce que Dieu a fait de nous, cette distance nous donne une mesure de la grâce. Sans doute bien faible, parce que nous ne mesurons à la fois pas assez d'où nous avons été tirés, ni assez ce que Dieu a fait de nous. Toutefois, cette distance, n'est-ce pas, qui est mise en évidence, par exemple, quand Dieu parle de mort et de vie. Quelle plus grande différence qu'entre un mort et quelqu'un qui est vivant ? Eh bien, tels nous étions, morts dans nos péchés, et voilà ce que Dieu a fait de nous. Et cela souligne, comme il nous est dit ici, les immenses richesses de sa grâce. Au verset 7 du chapitre 2, nous avons cette expression. Il est parlé plusieurs fois des richesses de la grâce, mais ici seulement nous avons les immenses richesses de la grâce. Parce que justement, il y a cette distance entre notre état d'avant et puis ce que Dieu a fait de nous. Et voilà par qui la louange est rendue. Voilà ceux qui sont capables de louer, de chanter la grâce, de célébrer. N'est-ce pas ? Les anges, Dieu n'a pas fait d'aussi grandes choses pour eux. Ni même pour le peuple d'Israël. Mais avoir été pris au plus profond de la misère et élevé, être assis dans les lieux célestes, eh bien, cette différence nous montre dans son immensité la grâce de Dieu. Et nous en sommes les témoins. Qui la chanterait mieux que nous, n'est-ce pas ? Qui la dirait mieux que nous ? C'est cela le sens même du culte chrétien. Nous exprimons le dimanche matin, et nous devrions le faire d'une manière permanente dans nos cœurs, quelque chose qu'aucune autre créature ne peut dire. Nous chantons un cantique, notre louange a un thème qui n'appartient qu'à nous. Et tout cela, c'est à la grâce que nous le devons, et c'est la grâce que nous chantons. Par qui la louange est rendue ? Eh bien, par les objets de la grâce. Pour quel motif la louange est rendue ? Eh bien là, nous pourrions distinguer trois aspects. D'abord, ce que Dieu fait. Ensuite, ce qu'il est. Et enfin, ce qu'il donne. Ce que Dieu fait, ses conseils. Ils nous sont déployés dans cette phrase que nous avons lue et dans laquelle nous avons l'ensemble de sa pensée en Christ. Dieu ne s'est pas contenté de nous aimer, mais il a fait de grandes choses pour nous. Il les a faites en Christ. Au chapitre 2, au début, il nous est dit ceci. Au verset 10, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Après avoir mis de côté les œuvres de l'homme pour se sauver lui-même, Dieu dit, eh bien, vous me devez tout. C'est moi qui ai travaillé. L'homme ne pouvait rien faire. Alors, j'ai agi moi-même. Et nous voyons là cette puissante œuvre de Dieu qui a, on pourrait presque dire, comme matière première, l'homme. Nous sommes son ouvrage, comme un sculpteur qui prend un bloc brut de pierre ou de bois et qui travaille dessus. Ce que Dieu fait. Et il nous invite à l'admirer, à le contempler. Et pas seulement nous le contemplons, mais l'univers entier sera témoin. Dieu prendra à témoin, il prend à témoin ses anges. Nous les trouvons dans le chapitre 3 comme des spectateurs, nous reviendrons peut-être sur ce point. Mais Dieu prend à témoin l'univers tout entier de ce qu'il fait. Admirer le travail de sa grâce. Dans des êtres précisément tellement indignes, tellement misérables, dont personne ne pouvait rien faire, en tout cas pas nous-mêmes, n'est-ce pas? Après avoir montré notre incapacité totale à faire quelque chose, Dieu dit, eh bien, c'est moi qui me mets au travail, et voilà mon travail, et il nous le fait admirer. Ce que Dieu fait. C'est notre frère Bellette qui dit quelque part les puissances retiendront leur respiration quand ils verront, expression très, très poétique, très belle, quand ils verront l'ensemble du plan de Dieu, le conseil de Dieu déployé dans l'Église. Chose admirable et extraordinaire qui dépasse toutes les pensées de l'homme. Ce que Dieu est, on peut dire c'est encore plus élevé que de considérer simplement ce que Dieu fait. Comment est-ce que nous voyons Dieu, comment est-ce que nous pouvons considérer ce que Dieu est en Christ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous voyons donc Christ. Nous sommes appelés à le contempler, à le considérer, à l'admirer, et nous voyons en lui toute la pensée de Dieu, tout l'amour de Dieu. Ce premier paragraphe, les versets 3 à 14 que nous avons lus, reprennent continuellement l'expression « en lui, en Christ ». Fin du verset 3, verset 6, agréable, dans le bien-aimé, en lui, en lui-même, etc. Chacun peut les compter, les noter. Autrement dit, toute la pensée de Dieu, elle est concentrée sur la personne de Christ. Et il nous invite à découvrir tout ce que nous, tout ce que nous avons dans cette personne. Dieu nous a donné une personne, un objet. Et alors, il nous donne en lui. Et c'est la troisième partie de notre sujet, n'est-ce pas? Ce que Dieu fait, ce qu'il est et ce qu'il donne. Nous avons déjà mentionné l'abondance de ses richesses, les nombreuses mentions que nous en avons dans les trois premiers chapitres. Notre verset 7 du premier chapitre, nous avons trouvé les richesses de sa grâce. Verset 18, les richesses de la gloire. Chapitre 2, verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde. Puis verset 7, les immenses richesses de sa grâce. Au chapitre 3, verset 8, les richesses insondables du Christ. Et puis au verset 16, les richesses de sa gloire. Nous voyons là que nous avons affaire à un Dieu riche, mais qui met ses richesses à notre disposition, qui nous les donne. Et si nous ne les prenons pas, comme croyants, on peut être très riche, n'est-ce pas? On peut avoir un compte en banque bien garni et puis ne jamais tirer un chèque. On est très riche, mais on peut vivre comme un pauvre. Trop souvent, les croyants vivent comme des pauvres, alors qu'ils ont ces immenses richesses de grâce et de gloire. Voilà ce que Dieu donne. Mais vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui donne, et si vous ne lui demandez pas, si vous ne vous en emparez pas, il y a une perte pour vous, mais il y a aussi une offense à celui qui vous donne. Si quelqu'un vous fait un cadeau et que vous le lui renvoyez, n'est-ce pas? C'est un outrage et c'est une tristesse pour celui qui a voulu vous témoigner son amour. Que de croyants se contentent du salut et puis c'est comme s'il disait à Dieu: ce salut que tu m'offres me suffit, je n'ai pas besoin de tout ce qui l'accompagne. Eh bien voilà l'occupation d'un sujet qui nous permet d'entrer un peu dans ces richesses, et puis Dieu veuille que ce soit pour nous les approprier, pour désirer nous en emparer. Alors, comment louer? Eh bien, nous avons l'une ou l'autre indication. D'abord, dans la bouche des croyants à la fin du chapitre 3, n'est-ce pas, nous avons une louange qui s'exprime à lui gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. On a parlé tout à l'heure dans les prières des générations qui se suivent. Toutes ces générations, elles sont appelées à louer, à participer à cette louange universelle. À la fin du psaume 22, vous avez toutes les conséquences des souffrances du Seigneur. Les 21 premiers versets nous présentent ces souffrances. Et puis à partir du verset 22, nous avons alors, jusqu'à la fin du psaume, toutes ces générations, ce peuple qui naîtra, toutes ces conséquences de l'œuvre de la croix, et la louange qui remplit l'univers à partir de l'œuvre de Christ. Alors si nous ne la rendons pas, cette louange, nous frustrons Dieu, nous privons Dieu de ce qui lui revient et de ce qui est à la hauteur de ses conseils d'amour. Au chapitre 5, seulement un verset, au verset 19, n'est-ce pas, il est parlé de
l'esprit dont nous devons être remplis, nous reviendrons sur ce, sur cette expression, Dieu voulant, il est dit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses. Ici, il s'agit peut-être plutôt de l'action de grâce et de la joie, d'une manière générale, qui doit déborder du cœur du croyant. Mais la première chose, c'est bien la louange, la reconnaissance qui doit monter vers lui pour tout ce que nous avons reçu. Eh bien, cette question quand, nous voyons là, rendant toujours grâce. Sans doute, il y a des moments pour la louange en commun. Le culte est rendu par les rachetés se réunissant dans ce but autour du Seigneur pour rendre culte, pour rendre la louange. Mais ce verset, nous venons de lire, verset 20 du chapitre 5, nous dit bien « rendons toujours grâce ». Le croyant est toujours un adorateur et pas seulement le dimanche matin. C'est donc un état permanent qui devrait nous caractériser. Louer Dieu pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est. Lorsque l'heure est arrivée, on serait reconnaissant que de tous les compléments qui pourraient être ajoutés et de toutes les questions qui peut-être pourraient encore être posées sur cette première partie de notre sujet.
Le choix de cette épître aux Éphésiens pour ses entretiens de ces jours nous a surpris. On peut dire parfois, oh, une telle épître d'un tel niveau, est-ce que vraiment elle n'est pas trop difficile pour les jeunes? Ces réunions étant bien sûr en commun, nous avons des personnes d'un certain âge déjà et nous sommes heureux de les avoir avec nous. Cependant, leur but était particulièrement axé sur les besoins des jeunes. On pourrait penser donc que le sujet a été choisi un peu trop élevé, mais justement pas. Les Éphésiens ont reçu deux épîtres. L'une que nous avons sous les yeux, l'autre au chapitre 2 de l'Apocalypse. Celle adressée à cette même assemblée en Apocalypse lui a été adressée beaucoup plus tard. Donc, les Éphésiens, quand ils ont reçu cette lettre de Paul, étaient plus jeunes que quand ils ont reçu celle adressée aux assemblées par le Seigneur directement, par l'entremise de Jean. Et c'est dans cette dernière qu'il leur dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Donc, pour être à même de recevoir et de bénéficier de cet enseignement de l'Épître aux Éphésiens, cet enseignement d'un niveau aussi élevé, il ne s'agit pas de savoir si on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il s'agit de savoir si nos cœurs sont en état de le recevoir. Un cœur rempli d'une chaude affection pour le Seigneur, rempli de l'affection du Seigneur pour lui, sera à même de recevoir l'enseignement de l'Épître aux Éphésiens. Mais un cœur qui s'est laissé attiédir, et c'est souvent les années qui nous attiédissent, nous en faisons l'expérience, les circonstances de la vie, le matérialisme de plus en plus, qui parfois ne nous rendent plus capables de recevoir l'enseignement de l'Épître aux Éphésiens, et on doit recevoir leur deuxième lettre. Et quant aux générations, puisqu'il en a fait mention, je voudrais citer, par rapport à la louange, au psaume 145e, les versets 4 à 7. 145, versets 4 à 7. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération, et elles raconteront tes actes puissants. Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté et de tes actes merveilleux. Et ils diront la force de tes actes terribles, et moi je déclarerai tes grands faits. Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté, et ils chanteront hautement ta justice. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération. Pour nous, parents, grands-parents peut-être, avons-nous toujours célébré les œuvres du Seigneur, célébré l'amour du Seigneur auprès de la génération qui nous suit. Et si parfois nous déplorons ce décalage, même peut-être ce clivage entre les générations, la responsabilité n'est-elle pas partagée? Avons-nous toujours fait ce que dit le psaume 145e? Oh, si nous l'avions fait, alors les générations ensemble, nous notons la fin du verset 4, elles raconteront tes actes puissants. Les générations ensemble s'uniront pour adorer, pour louer, pour faire jaillir la mémoire de la grande bonté de notre Dieu. Donc cet épître aux Éphésiens, bien que d'un niveau très élevé, on peut dire c'est un troisième étage, cet épître aux Éphésiens s'adresse à tous et s'adresse surtout au cœur qui aime le Seigneur et qui est rempli d'amour du Seigneur. Au sujet de ce qui nous est dit dans le verset qui nous a rendu agréable dans le bien-aimé à la fin du verset 6e. Il nous a rendu agréable dans le bien-aimé. Notre frère vient de nous faire remarquer ce que le Seigneur nous a donné, ce qu'il nous a fait, et ici ce qu'il a fait de nous. Non seulement de mort que nous étions, il nous a rendus vivants, d'incapables, il nous a rendus aptes à accomplir quelque œuvre pour lui, ou ce qui a été souligné, mais encore agréable dans le bien-aimé. La position haute et glorieuse qui est donnée aux croyants et que l'Épître aux Éphésiens nous révèle, c'est une position qui nous associe à un Christ glorieux. Mais il n'est pas dit... Il nous a associés à la gloire du Seigneur, ou à sa gloire royale, nous le serons quand même. Mais rendus agréables dans le bien-aimé, voilà pourquoi nous pouvons insister sur l'état du cœur et la jouissance des affections du Seigneur. Le bien-aimé, celui qui est vraiment par lui-même l'objet unique, incomparable des affections des siens. Dans le Cantique des Cantiques, nous en connaissons combien de fois cette expression est utilisée, le bien-aimé, il est mon bien-aimé. Eh bien, il est le bien-aimé, c'est le bien-aimé de Dieu, premièrement. Et il est le bien-aimé, puisse-t-il être l'objet de toutes nos affections. Et nous sommes rendus agréables en lui. Donc tout ce que le Seigneur est pour les affections du Père, eh bien, ceux qui lui sont associés sont aussi les objets d'une même affection. Et le Seigneur le dit dans l'Évangile de Jean, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et que je vous ai aimé comme vous aime le Père. » Il y a ces expressions que nous pourrions choisir, relire dans l'Évangile de Jean, où nous voyons que ce même amour du Fils pour le Père, du Père pour le Fils, c'est l'amour du Fils pour les siens, c'est l'amour du Père pour les siens. Et c'est cette qualité d'amour qui nous est aussi proposée à avoir entre nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime.
Cette expression résume notre position, agréable dans le bien-aimé. Et nous nous permettons de souligner à cet égard que notre traduction est la seule à la donner.
Si vous prenez n'importe quelle autre traduction de la Bible, les plus... les meilleures, autour de nous, les plus répandues, présentent le Seigneur comme le canal par lequel nous avons reçu la faveur de Dieu. La faveur dont il nous a gratifié dans le bien-aimé. Mais notre position en Christ, que Dieu nous agrée en lui, que Dieu nous aime parce qu'il aime Christ, cela est souligné par la traduction que nous avons, et on n'est pas étonné que certains croyants qui disposent d'autres traductions n'apprécient pas pleinement leur position en Christ, puisqu'ils leur propre Bible ne la souligne pas comme la nôtre.
Tel qu'il est lui, tel nous sommes dans ce monde.
Dans les 13 premiers versets, il est fait mention 3 fois de la volonté du Seigneur Jésus. Mais 3 fois avec un qualificatif différent. La première fois, au verset 5e, il nous a prédestinés pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ. Enfin, c'est Dieu, là. Selon le bon plaisir de sa volonté. Au verset 9, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté. Au verset 11e, il nous a fait héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ces 3 expressions ?
Dieu a accompli ce qu'il s'est proposé. Il n'a pas été surpris par les événements. Le péché de l'homme ne l'a pas pris au dépourvu. Dieu avait un grand conseil. Le centre de ce conseil, c'est Christ. Et ce conseil date de toute éternité, bien avant l'apparition du péché, bien avant la ruine de l'homme, avant sa présence sur la terre. Dieu avait déjà une volonté, et c'est une volonté d'amour, volonté de faire connaître son amour, volonté d'introduire, comme nous l'exprimons dans l'hymne saint, dans sa présence, des hommes sauvés et parfaits. Tu voulus dès l'éternité.
C'est un bon plaisir de sa volonté. Il l'a jugé à propos, il l'a jugé bon, mais ce n'est pas par fantaisie. Le bon plaisir de sa volonté, tout en restant un mystère pour nous, c'est le conseil de sa volonté. Quelque chose d'élaboré, en accord avec le Fils. D'ailleurs, la création même de l'homme a été, selon ce conseil, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quant à la prédestination ici, puisqu'il est dit de prédestiner pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, c'est aussi selon ce conseil éternel, pris dès avant la fondation du monde, entre le Père et le Fils. Mais cela reste un mystère pour nous, mystère devant lequel nous nous prosternons et nous adorons.
À propos de la grâce et de notre position d'adorateur, on a entendu parler beaucoup de la grâce. Qu'est-ce qu'on peut dire, quelque chose dans cette cette période exceptionnelle de l'Église, est-ce que la grâce était parfaitement manifestée? Est-ce qu'il n'y a plus d'ombre à la grâce de Dieu maintenant? Comme peut-être qu'il y en avait dans l'Ancien Testament, il connaissait peut-être seulement partiellement la grâce. Est-ce qu'on peut dire que cette grâce, Dieu l'a révélée totalement? Et puis ensuite, est-ce que ça serait une manière de comprendre ce que Pierre dit? La grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Est-ce que c'est juste de dire que Dieu a parfaitement révélé maintenant tous ses trésors d'amour?
Certainement. Qu'est-ce que Dieu ferait de plus grand que de donner son Fils? Quelle grâce plus grande que celle que nous voyons à la croix? Quelle grâce plus grande que celle de prendre ses morts pour les rendre vivants, et non seulement les rendre vivants, mais les introduire dans la même condition que Christ? On a là le plein déploiement de ses conseils. On peut dire qu'il n'en reste qu'un aspect, ce sera la manifestation publique. Quand l'Église aura été enlevée et reviendra avec Christ.
L'apôtre le dit qu'il n'a mis aucune réserve pour nous faire connaître tout le conseil de Dieu.
Et il le dit précisément aux anciens d'Éphèse. Nous pouvons dire que l'épître aux Éphésiens est comme le commentaire de cette parole que nous trouvons dans le chapitre 20 des Actes. Je n'ai mis aucune réserve à vous faire connaître tout le conseil de Dieu.
La manifestation de la grâce, c'est en Christ. La grâce et la vérité vint par Jésus-Christ. Elle se concrétise dans une personne. Et les effets de l'œuvre de cette personne, c'est le déploiement de la grâce. Mais ne parlons pas de grâce en dehors de Christ. La grâce n'est pas simplement une disposition du cœur de Dieu à pardonner aux coupables. Elle n'est liée qu'à Christ et à son œuvre.
Le verset 7 du chapitre 2, n'est-ce pas? « Afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. » Voyons là quels sont les objets de la grâce, mais c'est dans le Christ Jésus qu'elle est manifestée.
Les conseils de Dieu sont pour nous, mais en Christ, en rapport avec Christ.
Quand il est question au verset 3 du premier chapitre de toute bénédiction spirituelle, il est dit dans les lieux célestes, en Christ. Aucune des bénédictions du croyant n'est indépendante de Christ et ne peut l'être. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons en Christ.
Et nous avons parlé de la louange et des prières. Ne s'investit pas, comme nous l'avons lu au verset 20 du chapitre 5,